Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal sur le commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. Pour intensifier des coopérations, le roi de Suède se rendra en Indonésie. L'Union européenne et l'Indonésie ont lancé le livre bleu 2017 sur l'égalité des sexes. 44 entreprises indonésiennes participaient à l'exposition de Fuzhou. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le roi de Suède, Carl Gustaf, fera une visite d'État en Indonésie la semaine prochaine. Le roi, qui sera accompagné par la reine Sylvia et des délégués, arrivera en Indonésie le 21 mai et rencontrera le président Joko Widodo à Bogor, Jawa West. Le directeur européen du ministère des Affaires étrangères, M. Tias Baskoro Heswicaksono, a déclaré jeudi à Jakarta que dans la visite de 5 jours en Indonésie, le roi Carl Gustaf fera des activités, entre autres de visiter le cimetière de Hero, la vieille ville, le centre de recherche forestière international à Bogor, Jawa West, et assistera à une réunion d'affaires entre l'Indonésie et la Suède. En outre, il fera également une visite à Bandung, Jawa West, pour rencontrer le maire de Bandung, Ridwan Kamil, et visitera l'Institut de technologie de Bandung et le musée de la conférence afro-asiatique. Wicaksono Aji a expliqué que dans sa visite d'État en Indonésie, le roi Carl Gustaf se concentrera sur les efforts visant à accroître la coopération dans le domaine de l'investissement, le commerce, l'énergie et la recherche, y compris la technologie. On souhaite que la visite d'État du roi de Suède en Indonésie produise des accords concrets entre les deux pays. Quelques formes de coopération qui est actuellement en discussion comprennent un accord d'exemption de visa entre l'Indonésie et la Suède, le développement de l'économie créative, l'amélioration de la coopération sectorielle entre institutions ainsi que la signature d'un protocole d'accord relatif au développement de la coopération économique des deux pays. Le mercredi 16 mai 2017, l'Union européenne et l'Indonésie ont inauguré le lancement du Livre bleu 2017, c'est le rapport annuel de la coopération de développement entre l'Union européenne et l'Indonésie. L'inauguration a été assistée, entre autres, par le chef de Bappenas des Affaires des Finances du Développement, Ir. Kennedy Simanjuntak, le conseiller auprès du ministre de l'Autonomisation des Femmes et la Protection des Enfants, Dr. Sri Danti, et l'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, Vincent Jaron. Le thème principal de l'Union européenne, l'Indonésie, du livre bleu de cette année est « Briser les obstacles ensemble pour l'autonomisation des femmes économiques » qui décrit le soutien de l'Union européenne pour l'autonomisation des femmes, tant sur le plan économique et politique, ainsi que la lutte contre la violence fondée sur le genre et la mise en œuvre des politiques axées sur le genre. Cet événement a été assisté, entre autres, par l'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, Vincent Jaron. L'égalité entre les femmes et les hommes, comme vous le savez, est l'une des valeurs fondamentales de l'Union européenne. L'Union européenne et l'Indonésie estiment que l'égalité des sexes devrait exister dans le cœur de notre société et que l'autonomisation des femmes peut améliorer la justice sociale, le développement durable, ainsi que la croissance économique et la paix. Par conséquent, l'Union européenne est engagée à aider l'Indonésie dans le développement d'une société décente pour la réalisation des droits des femmes de tous âges et pour atteindre la croissance économique et sociale qui respecte les valeurs de l'égalité des sexes, a-t-il ajouté. 44 entreprises indonésiennes participaient à la 19e foire de l'économie et du commerce à Fuzhou, en province de Fujian, en Chine, du 18 au 22 mai 2017. Le coordinateur de la fonction socioculturelle de l'ambassade d'Indonésie à Pékin, Santo Darmo Sumarto, a affirmé mercredi que la participation de ces entreprises à cette exposition était l'invitation de la municipalité de Fuzhou et le gouvernement provincial de Fujian. Il a expliqué que la municipalité de Fuzhou, comme l'organisateur de la 19e exposition, offrait 100 stands au gouvernement indonésien. Mais le gouvernement indonésien prend seulement 56 stands utilisés par 44 entreprises. Il a dit que les entreprises indonésiennes qui participaient à l'exposition sont engagées dans divers domaines, y compris le commerce, le tourisme, la propriété. Le ministre de la Recherche et Technologie et de l'Enseignement supérieur, M. M. Nasir, a dit que le membre de l'Association des institutions d'enseignement supérieur du Sud-Est asiatique soutient la promotion du secteur maritime indonésien. Le potentiel des ressources marines et les 17 400 îles qui sont dispersées en Indonésie ont reçu le soutien de l'Association des institutions d'enseignement supérieur du Sud-Est asiatique, qui se compose de 28 pays. C'est ce qu'a affirmé Nasir en mars de l'ouverture de la conférence internationale de l'Association des institutions d'enseignement supérieur à Makassar, Sulawesi du Sud, mercredi. Il y avait au moins 7 accents du développement du Sud-Est asiatique dans le domaine de la coopération avec les organisations internationales, entre autres dans les domaines de la sécurité alimentaire et l'agriculture, le transport et maritime. Le Congrès international de l'Association des institutions d'enseignement supérieur du Sud-Est asiatique se déroule du 16 au 19 mai 2017, assisté par des représentants de 28 pays. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et la Science et de la Technologie de la Gambie, Aliyu Badara Diouf, a tenu une réunion avec l'ambassadeur d'Indonésie à Dakar au Sénégal et en Gambie, Mansour Pangeran, pour renforcer et explorer les opportunités de la coopération éducative entre la Gambie et l'Indonésie. Selon le deuxième secrétaire des fonctions de l'information socioculturelle de l'ambassade d'Indonésie à Dakar, Diman Prihadi, le ministre Badara Diouf a affirmé que le gouvernement de la Gambie appréciait l'assistance de la République d'Indonésie pour soutenir le développement du secteur agricole de la Gambie. Le gouvernement indonésien a contribué à améliorer la capacité des agriculteurs gambiens par le Centre de formation agricole à Djeno, en Gambie, créé en 1998. Le ministre Badara Diouf a affirmé que le gouvernement gambien voulait améliorer les relations bilatérales avec l'Indonésie dans le domaine de l'éducation, axé sur 4 domaines, à savoir l'agriculture, le tourisme, la technologie et l'ingénierie. Badara Diouf a également encouragé la signature du protocole d'accord entre l'Université de la Gambie avec l'Université de Brawijaya, Malang. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Chers amis de l'antenne, voici donc le commentaire et pour le titre, les résultats des élections de l'Iran et la géopolitique mondiale. Aujourd'hui, l'Iran détermine l'avenir de la politique de son gouvernement. Le ministère de l'Intérieur des pays qui adopte Chiite va annoncer bientôt le résultat des élections générales de ce pays. L'annonce qui se fait progressivement fixe aussi qui est le nouveau président iranien et de qui sera le pays. Contrairement aux autres pays, le ministère iranien de l'Intérieur a décidé de publier progressivement les résultats des comptes des voix en demandant la considération du Conseil des représentants. En outre, le ministère de l'Intérieur a également besoin d'accepter l'interprétation du Conseil de surveillance sur l'application des règles électorales. Cette décision est contraire aux déclarations précédentes disant que l'annonce ne doit pas se faire progressivement. À noter, l'Iran qui adopte Chiite dans l'élection générale reconnaît un organisme appelé le Conseil des représentants, à savoir l'institution qui est responsable de superviser la mise en œuvre de l'élection. Les élections en Iran, cette fois suivies par 4 candidats tels que Hassan Rouhani, Ibrahim Raisi, Mostafa Hashemitaba et Mostafa Akamir Salim. Près du moment du vote, les deux candidats Eshak Jahangiri et Mohamed Bakar Kalibaf démissionnent. Sur la base de la détermination du comité électoral, les citoyens qui ont le droit de vote sont plus de 56 millions de personnes, y compris ceux qui vivent à l'étranger. C'est parce que les participants électoraux sont 4 personnes, alors il y a la possibilité qu'on organisera les élections de la deuxième phase, si aucun des candidats a obtenu au moins 50% plus 1. Il est donc toujours en question qui deviendrait le numéro 1 à Téhéran plus tard. Comme un certain nombre d'autres pays, le gouvernement iranien permet également les activités des sondages. Au moins, des résultats du sondage montrent que le candidat et le président sortant, Hassan Rouhani, est prévu d'être supérieur que les 3 autres candidats. Une enquête menée les 7 et 8 mai 2017 par l'Agence iranienne de vote des étudiants a montré que Rouhani a gagné 42% des voix et suivi par Ibrahim Raisi en ulema qui est largement connu par la société iranienne, le maire de Téhéran, Mohamed Bagher Ghalibaf, en 3e position. Maintenant, non seulement la population du pays connue sous le nom Mollah qui attend les résultats des élections, mais aussi de grands pays comme les États-Unis, la Russie et la Chine. Les États-Unis, depuis longtemps, qui sont en conflit avec l'Iran, devraient attendre qui sera le numéro 1 dans le pays. De même, le dernier allié de la Russie avec l'Iran dans sa politique liée à la Syrie. Les résultats des élections générales en Iran vont certainement affecter les relations extérieures, y compris la politique de Téhéran contre l'utilisation nucléaire, ainsi que son point de vue sur la géopolitique du Moyen-Orient, en particulier les relations avec l'Israël et la Syrie. Chers amis, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers amis, nous vous racontons encore dans notre rubrique quotidienne aujourd'hui dans l'histoire de l'édition 19 mai. On va commencer le 19 mai 1981. La figure religieuse indonésienne Hamka a démissionné du président des Ulémas indonésiens, ou MUI. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, connu sous le nom Hamka, né dans le village de Batang Manijo, l'ouest de Sumatra, au 17 février 1908. Il était un éminent auteur indonésien, ulema et homme politique. À l'époque coloniale hollandaise, Hamka était le rédacteur en chef des magazines indonésiens tels que Pedoman Masyarakat, Panji Masyarakat et Gema Islam. Hamka a décédé le 24 juillet 1981, mais ses œuvres et les influences sont toujours présentes jusqu'à aujourd'hui, en particulier dans la croissance et la modernisation de l'islam. Pas seulement comme un érudit et un écrivain dans son pays, mais il a été très apprécié aussi à Malaisie et à Singapour. En charge le 19 mai 1943, sous la Seconde Guerre mondiale, le Premier ministre de Grande-Bretagne, Winston Churchill, et le président américain Franklin D. Roosevelt a décidé le 1er mai 1944 comme le jour de la richesse du passage au niveau de Détroit d'Angleterre. Sir Winston Leonard Spencer Churchill était un homme politique et auteur de la Grande-Bretagne, le plus connu comme le premier ministre de Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Son rôle en tant que stratège, orateur, diplomate et un homme politique de premier plan, Churchill fait l'une des figures les plus influentes dans l'histoire du monde en 1953. Churchill a reçu le prix Nobel de littérature pour la contribution qu'il a donnée dans son essai sur le livre anglais et l'histoire du monde. On termine le 19 mai 1974, qui sera élu président de la République. Valérie Guichard, Destin devance de peu avec 50,8% contre 49,2%. Le candidat socialiste François Mitterrand est devient président de la République française. L'union de la gauche autour d'un unique candidat avait pourtant proposé Mitterrand un score de 43,6% au premier tour, mais Guichard saura réunir les voix de la droite et surtout convaincre les Français. Avec l'os du débat d'officier dans deux tours, une phrase qui restera dans les mémoires collectives, vous n'avez pas le monopole du cœur. Chers amis, c'était notre histoire aujourd'hui de ce soir, l'édition 19 mai. À demain.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec la mise au point et en pour le titre, l'Indonésie et la Lituanie sont convenus la coopération de l'énergie et des transports. L'Indonésie et la Lituanie établissent la coopération dans divers domaines qui s'est reflétée dans la signature du protocole d'entente par les représentants des ministres des deux pays. La signature a été faite après que le président Joko Widodo reçoive la visite d'État de la présidente de la République de Lituanie, Dalia Grybauskaitė, au Palais Merdeka à Jakarta, mercredi le 17 mai 2017. Le président Joko Widodo, dans un communiqué de presse ensemble avec la présidente de la Lituanie au Palais présidentiel, a déclaré la première coopération qui est établie entre les deux pays, à savoir dans le domaine de l'énergie liée à l'énergie de la biomasse, l'énergie à partir de déchets ainsi que des gaz. La seconde, dans le domaine des technologies et de l'information à la fois pour l'utilisation du transport terrestre ou en vol. L'Indonésie a également convenu de renforcer la coopération commerciale et d'investissement. En outre, l'Indonésie a également encouragé pour que des négociations dans l'accord de partenariat global Indonésie-Union européenne soient achevées immédiatement. Selon le président, l'Indonésie a également exprimé l'attitude envers la campagne noire continue et des actions discriminatoires des produits d'huile de palme indonésienne en Europe. Le président a admis qu'il a demandé le soutien de la Lituanie pour que les produits d'huile de palme d'Indonésie soient traités comme équitable. Le président Joko Widodo a ajouté, Les touristes de la Lituanie au cours des quatre dernières années a considérablement augmenté de 183% de 2013 à 2016. Le président Joko Widodo considère la visite de Madame Dalia Grybauskaitė est historique, car c'est la première visite du président de la Lituanie en Indonésie. C'est également la première rencontre entre le président de l'Indonésie et la présidente de la Lituanie pour l'établissement des relations diplomatiques il y a 24 ans. Dans la même occasion, la présidente de la Lituanie, Dalia Grybauskaitė, a expliqué l'engagement de sa parti et des pays européens à l'appui de la CEPA ou l'accord de partenariat économique global. Il engage également le soutien des efforts pour négocier sans visa à l'Union européenne, car elle apportera des revenus ayant pour valeur de 2,5 milliards d'euros. Cela permettra d'améliorer le bien-être et la sécurité. Elle espère également établir une coopération dans le domaine de l'agriculture avec l'Indonésie plus tard. Par conséquent, elle a admis que la Lituanie a la capitale pour améliorer le secteur agricole. Elle espère que cette visite serait un élan des deux côtés dans le domaine de l'agriculture, parce que les terres de la Lituanie sont assez bonnes. En plus de rencontrer le président Joko Widodo, la présidente Dalia a rendu visite le président du Parlement, Setia Novanto. C'était la mise au point pour ce soir.
Le roi de Suède, Carl Gustaf, fera une visite d'État en Indonésie la semaine prochaine. Le roi, qui sera accompagné par la reine Sylvia et des délégués, arrivera en Indonésie le 21 mai et rencontrera le président Joko Widodo à Bogor, Jawa-Ouest. Le directeur européen du ministère des Affaires étrangères, M. Tias Baskoro Heswi Caksono, a déclaré jeudi à Jakarta que dans la visite de 5 jours en Indonésie, le roi Carl Gustaf fera des activités, entre autres de visiter le cimetière de Hero, la vieille ville, le centre de recherche forestière international à Bogor, Jawa-Ouest, et assistera à une réunion d'affaires entre l'Indonésie et la Suède. En outre, il fera également une visite à Bandung, Jawa-Ouest, pour rencontrer le maire de Bandung, Ridwan Kamil, et visitera l'Institut de technologie de Bandung et le musée de la conférence afro-asiatique. Wijaksono Aji a expliqué que dans sa visite d'État en Indonésie, le roi Carl Gustaf se concentrera sur les efforts visant à accroître la coopération dans le domaine de l'investissement, le commerce, l'énergie et la recherche, y compris la technologie. On souhaite que la visite d'État du roi de Suède en Indonésie produise des accords concrets entre les deux pays. Quelques formes de coopération qui est actuellement en discussion comprennent un accord d'exemption de visa entre l'Indonésie et la Suède, le développement de l'économie créative, l'amélioration de la coopération sectorielle entre institutions ainsi que la signature d'un protocole d'accord relatif au développement de la coopération économique des deux pays. Le mercredi 16 mai 2017, l'Union européenne et l'Indonésie ont inauguré le lancement du Livre bleu 2017. C'est le rapport annuel de la coopération de développement entre l'Union européenne et l'Indonésie. L'inauguration a été assistée, entre autres, par le chef de Bappenas des Affaires des Finances du Développement, Ir. Kennedy Simanjuntak, le conseiller auprès du ministre de l'Autonomisation des Femmes et la Protection des Enfants, Dr. Sri Danti, et l'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, Vincent Jaron. Le thème principal de l'Union européenne, l'Indonésie, du Livre bleu de cette année est « Briser les obstacles ensemble pour l'autonomisation des femmes économiques » qui décrit le soutien de l'Union européenne pour l'autonomisation des femmes tant sur le plan économique et politique ainsi que la lutte contre la violence fondée sur le genre et la mise en œuvre des politiques axées sur le genre. Cet événement a été assisté entre autres par l'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, Vincent Jaron. L'égalité entre les femmes et les hommes, comme vous le savez, est l'une des valeurs fondamentales de l'Union européenne. L'Union européenne et l'Indonésie estiment que l'égalité des sexes devrait exister dans le cœur de notre société et que l'autonomisation des femmes peut améliorer la justice sociale, le développement durable, ainsi que la croissance économique et la paix. Par conséquent, l'Union européenne est engagée à aider l'Indonésie dans le développement d'une société décente pour la réalisation des droits des femmes de tous âges et pour atteindre la croissance économique et sociale qui respecte les valeurs de l'égalité des sexes, a-t-il ajouté. 44 entreprises indonésiennes participaient à la 19e foire de l'économie et du commerce à Fuzhou, en province de Fujian en Chine, du 18 au 22 mai 2017. Le coordinateur de la fonction socioculturelle de l'ambassade d'Indonésie à Pékin, Santo Darmo Sumarto, a affirmé mercredi que la participation de ces entreprises à cette exposition était l'invitation de la municipalité de Fuzhou et le gouvernement provincial de Fujian. Il a expliqué que la municipalité de Fuzhou, comme l'organisateur de la 19e exposition, offrait 100 stands au gouvernement indonésien. Mais le gouvernement indonésien prend seulement 56 stands utilisés par 44 entreprises. Il a dit que les entreprises indonésiennes qui participaient à l'exposition sont engagées dans divers domaines, y compris le commerce, le tourisme, la propriété. Le ministre de la Recherche et Technologie et de l'Enseignement supérieur, M. M. Nasir, a dit que le membre de l'Association des institutions d'enseignement supérieur du Sud-Est asiatique soutient la promotion du secteur maritime indonésien. Le potentiel des ressources marines et les 17 400 îles qui sont dispersées en Indonésie ont reçu le soutien de l'Association des institutions d'enseignement supérieur du Sud-Est asiatique, qui se compose de 28 pays. C'est ce qu'a affirmé Nasir en marge de l'ouverture de la conférence internationale de l'Association des institutions d'enseignement supérieur à Makassar, Sulawesi du Sud, mercredi. Il y avait au moins 7 accent du développement du Sud-Est asiatique dans le domaine de la coopération avec les organisations internationales, entre autres dans les domaines de la sécurité alimentaire et l'agriculture, le transport et maritime. Le Congrès international de l'Association des institutions d'enseignement supérieur du Sud-Est asiatique se déroule du 16 au 19 mai 2017, assisté par des représentants de 28 pays. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et la Science et de la Technologie de la Gambie, Aliyu Badara Diouf, a tenu une réunion avec l'ambassadeur d'Indonésie à Dakar au Sénégal et en Gambie, Mansour Pangeran, pour renforcer et explorer les opportunités de la coopération éducative entre la Gambie et l'Indonésie. Selon le deuxième secrétaire des fonctions de l'information socioculturelle de l'ambassade d'Indonésie à Dakar, Diman Prihadi, le ministre Badara Diouf a affirmé que le gouvernement de la Gambie appréciait l'assistance de la République d'Indonésie pour soutenir le développement du secteur agricole de la Gambie. Le gouvernement indonésien a contribué à améliorer la capacité des agriculteurs gambiens par le Centre de formation agricole à Djenou, en Gambie, créé en 1998. Le ministre Badara Diouf a affirmé que le gouvernement gambien voulait améliorer les relations bilatérales avec l'Indonésie dans le domaine de l'éducation, axé sur 4 domaines, à savoir l'agriculture, le tourisme, la technologie et l'ingénierie. Badara Diouf a également encouragé la signature du protocole d'accord entre l'Université de la Gambie avec l'Université de Brawijaya, Malang. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter Bondowoso à Java Est. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie. La résidence Bondowoso à Java Est a un grand potentiel touristique, en particulier la nature. Le cratère Ijen dans le district Sempol et Sumberwingin est l'une des attractions naturelles populaires à Bondowoso. Beaucoup de touristes montent au mont Ijen pour voir la beauté du cratère Ijen et ses environs. Le cratère Ijen est un lac de cratère acide situé au sommet du mont Ijen avec la hauteur de 2443 mètres au-dessus du niveau de la mer à une profondeur du lac de 200 mètres et la zone du cratère qui atteint 5466 hectares. En plus du cratère Ijen, en fait, Bondowoso a également un autre cratère assez beau nommé cratère Wurung. Le cratère Wurung se trouve administrativement au village Kalianyar, le district Sempol, Bondowoso. La région, qui a une superficie de plus de 100 hectares, est inclue dans la gestion Perhutani Bondowoso. De Bondowoso, pour se rendre à la région surnommée Highland Paradise, on peut prendre un véhicule à deux ou quatre roues. Il y a deux routes alternatives, à savoir à travers la zone de plantation Jampit et Curah Macan. La route vers la colline qui a l'altitude d'environ 1700 mètres au-dessus du niveau de la mer est relativement facile. Si on part de la ville Bondowoso, il faut environ 2 heures pour atteindre l'emplacement. Pendant le voyage au cratère Wurung, vous pouvez profiter du paysage naturel incroyable allant de forêts de pins jusqu'à ce que le jardin de fleurs le long de la plantation Jampit. On l'appelle le cratère Wurung en raison de sa condition géographique qui ressemble à un cratère qui est en vain. Wurung en javanais signifie pas ou en vain. Il est dit que cette région faisait autrefois partie de la caldeira du mont Ijen. Il peut être vu à partir des collines comme une caldeira béante. La randonnée vers le cratère Wurung de la zone de stationnement vers la colline Pandang a besoin d'environ 25 minutes. En arrivant au sommet de la colline Pandang, le panorama naturel est enchanteur. Pour autant que l'œil pouvait voir, ce n'était rien mais la savane et les collines verdoyantes. À travers la vallée de savane, il y a la colline Cincin. On l'appelle la colline appelée Cincin, soit la colline Ano, parce qu'au sommet de la colline, il y a une flaque d'eau comme une caldeira de montagne ayant le diamètre d'environ 100 mètres qui est rond comme un anneau. Pour les amateurs de photographie, le beau paysage au cratère Wurung est l'endroit idéal pour chasser les images. Si la condition météorologique est bonne, à la distance, on peut voir la lèvre béante de la caldeira Ijen. À différents angles, apparaît également le mont Raung avec une caldeira trop raide. Pour ceux d'entre vous qui aiment voyager en défi, vous pouvez essayer le parapente et le delta plane. Le Créateur Wurum commence d'être vu pour le développement du sport de parapente et deltaplane. Chers amis, c'est la rubrique du magazine Couture pour ce soir. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant encore sur l'Indonésie. Merci de votre fidélité. À demain.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur ayant pour le titre La saucisse faite d'alc. Le potentiel des algues en Indonésie a une perspective brillante et devient l'un des produits d'exportation en Indonésie. L'un des types d'algues qui a une grande valeur économique sont les algues marines ou phaeophysiaea. Il contient de l'odium et de composés actifs comme le phénol. Dans ce contexte, l'Institut d'agriculture de Bogor, IPB, regroupé dans l'équipe du programme de créatif des étudiants, PKM IPB a fait l'innovation de la fabrication de la saucisse d'alc avec l'étiquette commerciale Soimut. Cette saucisse à base d'alc Sargassum SP. Cette équipe est présidée par M. Habibur Rahman, dont les membres sont Desta Elpina, Arif Wardana Herlambang, Fajriansa Hendra Pratama et Miftah Rizki Islam Moriza. Ces 5 étudiants sont inscrits comme étudiants du département de la gestion de l'agroalimentaire et de la faculté de l'économie. Habibou considère que la saucisse Soimut est saine parce qu'elle est faite d'alc et n'est pas utilisée de conservateur. Les algues contiennent également des protéines, des hydrates de carbone et des fibres qui sont bonnes à consommer chaque jour, car elle fonctionne pour maintenir et réguler le métabolisme du corps humain. L'un des membres de l'équipe, Desta Elpina, expliquait que cette saucisse est dans le processus d'être commercialisée plus largement à partir d'un registrement d'une licence commerciale, licence d'affaires, y compris la recherche d'un partenaire pour produire à l'échelle de maison. Desta a ajouté que le premier fonds pour traiter la saucisse provient du ministère de l'Éducation, de la Recherche et de la Technologie qui a pour valeur d'environ 10 millions de rupiah. La première étape, la saucisse Soimut, est commercialisée dans les campus. La réponse du test de marché est beaucoup d'étudiants aiment ce produit coûtant 16 000 rupiah. Chers auditeurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son. Programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers fidèles amis, voici le magazine de Pelangi Nada ou magazine de musique édition du vendredi. Et ce soir avec moi, Muhammad Suwartono. Comme chaque vendredi, on vous présente le rythme de dangdut. Et pour ce soir, avec la chanteuse de dangdut, Dewi Persik. Bon, comme l'ouverture de rencontre, allez écouter la chanson de Dewi Persik intitulée Menada Cinta, berikut. Thank you. Chers amis, vous avez le vrai nom de Dewi Persik est Dewi Muria Agung. Elle est née au 18 décembre 1975 à la ville de Jember en province de Jawa Timur. On connaît Dewi Persik lorsqu'elle est jouée dans le film télévisé Mimpi Manis en 2006. Avec le soundtrack de musique et aussi avec le même titre chanté par Dewi Persik elle-même. Là-bas, Dewi Persik, comme sa chanson, est très connue. On connaît aussi que Dewi Persik est aussi non seulement chanteuse, mais aussi actrice. Voilà, c'est la réalité. Bon, chers amis, avant de continuer notre rencontre, allez écouter l'autre chanson de Dewi Persik intitulée « Grimis ». Bonne écoute.
Tiba-tiba gerimis datang mengundang.
Chers amis, David Persic a beaucoup de talent. Lors des activités militaires, elle participe comme visiteur courtoisie et aussi participe comme exercice militaire. On sait que David Persic fait aussi sa présence dans quelques événements dans certaines provinces indonésiennes. Elle pense que sa présence est pour ses fans. Malgré sa vie n'a pas de succès, mais sa carrière se déroule bien. Bon, chers amis, c'était le magazine de musique pour ce soir avec Dewi Persik. Et avant de vous quitter, allez encore écouter deux dernières chansons de Dewi Persik intitulées Mimpi Manis et Dilemma. Bonne écoute et au revoir.
toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Terjebak terperangkap rasa yang salah. Semua ini sangat sulit untuk aku hindari. Aku menyangka kita akan baik-baik saja, tapi nyatanya kini aku hidup dalam dilema. Aku terlalu sayang, sudah terlanjur cinta. Kau buatku gelisah dan membuatku bertanya, haruskah kau kulupakan, haruskah semua sirna. Sanggupkah ku berjalan hidup tanpa diri.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta ou PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voi Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.